Europe 1 Sport. Lionel Rousseau.
Jusqu'à 23h sur Europe 1 Sport du lundi au dimanche, nous sommes ravis de vous retrouver, de vous accueillir pour le sport dans tous ses états. Le foot en effet, le débat avec les légendes, l'actualité du foot à partir de 22h, mais entre 21h et 22h, l'omnisport, tous les sports et notamment le tennis. L'US Open vient de s'achever, vous le savez, avec la victoire d'Alcaraz, nouveau numéro 1 mondial, seulement 19 ans. Et puis les bons résultats de Caroline Garcia qui peut-être remportera un grand chelem. Voilà pour le sommaire et les thématiques de notre page tennis ce soir avec nos invités. Ils sont trois, ils vont monter au filet tout au long de cette émission. Nous sommes ravis d'être avec Cédric Pioline. Bonsoir Cédric Pioline.
Bonsoir Lionel.
Merci de nous rejoindre cher Cédric aux côtés de Benoît Mélin qui est avec nous. Bonsoir Benoît.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et Julien Pichenet. Bonsoir Julien.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous.
Un vrai bonheur de vous retrouver tous les trois pour parler tennis. Ça a été une belle quinzaine, c'est vrai, cette US Open. On fera le bilan un petit peu plus tard ensemble, mais j'aimerais juste qu'on s'attarde sur celui dont tout le monde parle. Il n'a que 19 ans, il est espagnol, il est numéro 1 mondial, il vient de remporter l'US Open. Il est le plus précoce, hein, puisqu'il est plus jeune que les Tony Hewitt, qui lui s'était imposé dans un tournoi du Grand Chelem à l'âge de 20 ans. Comment fait-il Cédric Pioline? C'est un phénomène ce garçon.
C'est une météorite, hein. J'ai envie de démarrer avec une donnée qui est assez extraordinaire. Rendez-vous compte qu'en février 2020, donc il y a 2 ans et demi, il disputait son premier tournoi ATP sur le grand circuit, hein, donc hors Challenger, et que donc 2 ans et demi plus tard, il est numéro 1 mondial avec un match inédit, hein, où les deux joueurs pouvaient pour la première fois accéder à la place de numéro 1 mondial et gagner leur premier grand chelem. Et celui qui a été le plus solide au niveau nerveux et qui probablement a confirmé qu'il avait le plus gros potentiel a été l'Espagnol. Donc il est assez extraordinaire parce qu'il avance même plus vite qu'un TGV.
Ouh, c'est vrai qu'il va très très vite. En effet, il est bon sur toutes les surfaces. Je rappelle qu'il s'est imposé en finale contre Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Et Julien Pichenet, avec les nerfs, avec beaucoup de sobriété parfois, mais surtout avec des nerfs très très bien accrochés malgré son jeune âge.
Bah c'était pas évident à gérer cette finale, déjà parce que physiquement il avait sans doute énormément puisé dans ses réserves. On rappelle qu'avant la finale il restait sur 3 victoires en 5-7. Ça, c'est extrêmement rare de voir ça en grand chelem. On avait vu ça il y a 30 ans à Kettberg, qui avait aussi réussi à gagner la finale. Mais ce qu'on a vu hier soir, c'est un Alcaraz, oui, puisé dans ses réserves, puisque physiquement ça a été très très dur. Ça a été un combat effectivement extrêmement physique, extrêmement nerveux face à un Casper Ruud qui aurait très bien pu mener 2-7-1. Il a eu 2 balles de 2-7-1. On aurait pu avoir encore un match en 5-7. Peut-être que Ruud aurait pu s'imposer. Il peut s'en vouloir, peut-être, d'avoir manqué ses occasions. Mais on a vu que Alcaraz était capable, Lionel, de s'en sortir, même quand physiquement c'était un petit peu compliqué, et même quand il devait trouver des plans B, même quand il n'était pas à 100% physiquement. Et ça promet franchement pour la suite.
Et il est tout terrain, Benoît Mélin, Alcaraz. C'est ça qui est bien et qui en fait sans doute pour l'avenir, si le destin l'épargne bien sûr, mais pour l'avenir, un ogre qui va tout enlever, tout arracher.
Et oui, il fait vraiment peur à tout le monde. C'est vrai que Cédric rappelait effectivement sa progression qui est complètement folle. Rien que cette année, c'est dingue de se dire qu'il a gagné son premier tournoi 500, qui est déjà une catégorie très importante. Après, il a gagné son premier Masters 1000, qui est, on va dire, la catégorie juste avant les grands chelems. Alors, il en a gagné un sur dur à Miami, puis ensuite, il en a gagné un sur terre battue. En se faisant une petite perf comme ça, en battant et Nadal et Djokovic. Et puis derrière, on se dit, mais est-ce qu'il est capable de nous faire quelque chose aussi sur gazon à Wimbledon? C'est sûr et certain que vu son tennis, on se dit qu'il est capable de tout faire. Mais sa surface de prédilection, on pense tout de suite bien sûr à l'Espagne, à Nadal, à la terre battue. Mais je pense que sa surface de prédilection, c'est vraiment le dur où son tennis, là, ce ciment américain, son tennis a pu s'épanouir à 100%. Il a été extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, extraordinaire.
Comment vous l'expliquez, Cédric Pioline, que ce ne soit pas uniquement un homme de terre ?
Écoutez, je pense que les Espagnols ont énormément progressé. C'est devenu un peu un cliché. Alors c'est vrai qu'il est ce cliché est renforcé par Nadal, qui est ultra dominateur sur terre battue depuis maintenant plus de 15 ans, avec 14 victoires à Roland-Garros. Donc Donc lui, il a progressé partout. Il a, puis surtout, il a un style de jeu. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a de la foudre dans le bras, qui est capable de faire des coups gagnants en coup droit, en revers, un peu dans toutes les positions, qui a énormément progressé physiquement. Mais surtout, ce qui est impressionnant avec ce jeune joueur, hein, puisqu'on parle d'un jeune adulte hein, de 19 ans, c'est que en fait, il arrive non seulement à progresser extrêmement vite, avec une pression énorme qui est montée au fur et à mesure du temps, puisque tout le monde disait bon bah maintenant ok la prochaine étape c'est le tournoi du Grand Chelem, et donc cette résistance à la pression, une forme de, je sais pas si c'est dû à son jeune âge aussi de d'inconscience hein, d'une certaine manière, mais je pense que c'est la très bonne nouvelle pour lui et pour le tennis. Au-delà du fait qu'il ait gagné son premier grand chelem et d'être numéro mondial, c'est qu'il a gagné son premier grand chelem très rapidement. On voit qu'il y a des joueurs qui stagnent d'une certaine manière et qui n'arrivent pas à passer cette dernière étape. Je pense à des Tsitsipas, à des Zverev par exemple, qui sont là depuis plus longtemps et puis qu'on attendait. On voyait surtout ce type de joueurs être les successeurs du trio infernal. Qui est fait Federer, Nadal et Djokovic. Et ben non, c'est un jeune joueur qui était quasiment inconnu il y a deux ans et demi, et qui accède au trône en gagnant son premier Grand Chelem. Donc c'est vraiment impressionnant cette maturité dont il fait preuve.
Il s'est beaucoup inspiré, Cédric Pioline, de Raphaël Nadal. D'ailleurs, Nadal a envoyé un message de félicitations très rapidement sur les réseaux sociaux. C'est très élégant, c'est très classe hein, de la part de Raphaël Nadal après cette victoire. Bon, alors ils sont compatriotes en effet, mais qu'est-ce qui les différencie ou qu'est-ce qui les fait se ressembler, ces deux joueurs, Nadal et Alcaraz, Cédric?
Bah, écoutez, au-delà évidemment de la nationalité, je pense que Alcaraz s'est énormément inspiré de Nadal dans son attitude, dans un espèce, même s'il est au tout début hein, lui, mais dans un espèce de plan de carrière. Et puis il y a un élément qu'on doit vraiment amener dans l'équation, hein, c'est son coach. Je rappelle que c'est Juan Carlos Ferrero qui a été lui-même numéro un mondial, qui a gagné Roland Garros et qui connaît, je dirais, très bien toutes ces étapes de progression et puis tout ce qui accompagne la progression tennistique, à savoir la gestion de ces moments-là, de matchs à haute pression, de la notoriété, de l'argent, du statut, de l'attente. Et donc c'est un ajout qui est vraiment crucial et à mon avis qui est un fort accélérateur dans la progression de ce jeune Espagnol, parce qu'il lui fait gagner beaucoup de temps. Il l'a déclaré d'ailleurs pendant le tournoi, dans une conférence de presse, qu'il échange énormément avec Juan Carlos sur justement les matchs à pression, puisque lui-même, Juan Carlos, avait été dans les années 2000, était devenu numéro un mondial en gagnant sa demi-finale à l'US Open et en ayant perdu pour sa part la finale contre Andy Roddick, l'Américain.
L'année où Carlos Alcaraz naissait.
Incroyable, ouais, incroyable, ouais, bien sûr.
Bravo, bravo Benoît, très belle intervention, pertinente.
Oui, absolument, une montée au filet saillante de Benoît Mélin, à qui je vais céder la parole dans un instant, tout comme à Julien Pichelet. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Richard Gasquet, qui, s'il en est, a été très précoce lui aussi. Et Jacques Vendroux, il avait bonne idée de lui passer un coup de fil cet après-midi pour lui demander ce qu'il pensait d'Alcaraz et de son talent.
Bah c'est vrai que c'est très jeune, quoi. 19 ans, gagner l'US Open et être le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, c'est vrai que c'est incroyable. Voilà, on savait que depuis quelques mois, il avait gagné beaucoup de tournois. On savait que ça allait être certainement le meilleur. Aujourd'hui, je pense qu'il va prendre la relève de Nadal, Djokovic, Federer. C'est vrai que sur les 10 prochaines années, je vois vraiment Alcaraz gagner énormément de grands chelems.
Quels sont ses points forts?
Il sait tout faire, quoi, tout simplement. Il est très rapide, il sert très bien. Il a vraiment que des qualités dans son jeu, très peu de défauts, une énorme combativité aussi, un énorme physique. Il a quand même fait 3 fois 5-7 de suite. Après la finale aussi, ça a été un match très dur. Donc il a tout d'un grand, tout simplement.
C'est compliqué de le jouer?
Oui, forcément. C'est sûr qu'il a un niveau énorme aujourd'hui. Donc c'est clair que ça va être par la suite, à mon avis, un joueur extraordinaire, beaucoup de charisme sur le court. je pense qu'il va faire du bien au sport. C'est certainement le prochain qui va gagner énormément de grands chelems. Après, s'il va en avoir 22 comme Nadal, je ne sais pas, mais en tout cas, une dizaine, c'est clair que sans aucun souci.
On ne le connaît pas très bien, en fait. Hein.
Oui, bah, il est jeune, il a 19 ans, il est arrivé très vite, il est arrivé l'an passé sur le circuit. Voilà, il a eu une progression qui est extraordinaire aujourd'hui, il est numéro 1 mondial, donc c'est sûr que bravo à lui, on verra bien ce qu'il va faire par la suite, mais c'est certainement un énorme champion qui est né hier sur le cours à l'US Open.
Vous le connaissez un peu?
Oui, un petit peu, je connais son entraîneur aussi, Ferrero, voilà, il est très très bien encadré. Bah, il a tout pour faire une immense carrière, je pense qu'il va être très longtemps numéro 1 mondial. Et que ça va être voilà, le prochain joueur de la prochaine décennie.
Et s'il avait une petite faiblesse, c'est quoi?
Bon, sa jeunesse, un petit peu, tout simplement. Aujourd'hui, je pense qu'il va encore progresser. On voit Federer à 19 ans et à 25 ans, ce n'est pas du tout le même joueur. Donc, je pense qu'il a une énorme marge de progression devant lui. Donc, pour moi, ça va être un joueur immense. Je pense qu'il a tout vraiment pour réaliser le grand chelem déjà, gagner tous les grands chelems. Je pense qu'il va le faire très très vite et je ne sais pas exactement à combien il s'arrêtera, mais ça va être un immense champion, ça c'est sûr.
Richard Gasquet au micro de Jacques Vendroux qui réagit au talent et donc à la première victoire en grand chelem de Carlos Alcaraz. Du coup, Benoît Mélin, Richard Gasquet a-t-il raison d'être aussi dithyrambique en disant que le futur numéro 1 et pour longtemps c'est Alcaraz qui va remporter tous les grands chelems et peut-être battre tous les records?
Oui, bah c'est toujours la même musique. Hein. De toute façon, Federer, Djokovic et Nadal nous ont enlevé ce plaisir d'apprécier le moment présent. On est maintenant tout le temps en train d'essayer de dire que c'est lui qui va en gagner 20, 40, 50 et que ce sera lui le plus grand joueur de l'histoire. On n'en sait rien. Je me souviens quand Juan Martín Del Potro avait remporté l'US Open en 2009 en battant et Nadal et Federer dans une finale complètement dingue. Tout le monde disait Del Potro, c'est incroyable, il a 19 ans, il va tout gagner, ça va être merveilleux. Mais il y a tous les aléas d'une carrière professionnelle derrière. On peut se perdre avec l'argent maintenant qu'on gagne. On l'a vu dans le tennis féminin, il y a quelques joueuses qui ont perdu un petit peu le fil de leur carrière professionnelle à cause de l'argent. Il peut y avoir les blessures. Juan Martín Del Potro en est l'exemple absolu, où il n'a jamais pu véritablement mettre en place son tennis comme il l'aurait entendu et remporter d'autres tournois du Grand Chelem. Il n'en a gagné qu'un, alors qu'on le voyait en gagner 5, 6, 7. Et encore à l'époque, on n'avait pas encore les trois fous qu'on avait gagné 20, plus de 20. Donc attendons, voyons bien comment ça va se passer. C'est sûr que sa cellule familiale fait penser à celle de Nadal. Elle est très stable avec ses parents, avec ses frères. Il y a Juan Carlos Ferrero, on en parle énormément. Et puis il a l'exemple aussi des trois monstres. Moi je trouve que Carlos Alcaraz, c'est un mélange de Federer avec sa vitesse de bras, sa créativité sur le court. C'est un mélange de Nadal parce que le côté hyper, cette grinta, cette volonté, ces tripes qu'il a en permanence, et puis cette défense, ce déplacement hallucinant, élastique, Elastic Man, ce gamin, comme Djokovic. Donc il a tout pour dominer le tennis mondial. Mais avant de vendre, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, vous savez.
C'est oui, oui, c'est vrai. C'est le vieil adage, en effet, qu'il faut s'appliquer à soi-même, bien souvent. Je suis bien d'accord. Julien Pichenet, y a-t-il d'autres raisons de relativiser sur l'avenir d'Alcaraz? Car c'est vrai que là, on décrit une situation pour la lutte des records et du classement numéro 1 mondial avec des monstres que sont Nadal, Djokovic, et Federer. A-t-il des rivaux de son âge, de sa génération et dans son périmètre aujourd'hui?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs de sa génération, nés au début des années 2000, qui sont arrivés dans le top 100 bien avant lui. Il y a eu Yannick Sinner, il y a eu le Canadien qu'on connaît bien, Félix Auger-Aliassime, qui sont arrivés avant lui dans le top 100 et qui sont tous les deux nés au début des années 2000. Et Alcaraz les a dépassés, mais vraiment à une vitesse complètement dingue. Il a dépassé tous les joueurs de sa génération. Et c'est vrai qu'il paraît être aujourd'hui le meilleur joueur, disons, né dans les années 2000, même si on englobe ceux qui sont nés à la fin des années 90, après Daniil Medvedev, on va dire, on a l'impression que c'est le meilleur. C'est vrai, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Vous savez, on a déjà vu dans l'histoire un joueur gagner son premier grand chelem encore plus jeune qu'Alcaraz, c'est Michael Chang. Il avait 17 ans en 89 quand il gagne à Roland-Garros, hein, c'est l'année du service à la cuillère, et ça a été sa seule victoire en grand chelem. Bon, ce serait étonnant que Alcaraz n'en gagne pas d'autres, comme le disait Richard Gasquet, il est sans doute très bien parti, mais on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Vous savez, on se souvient aussi de Pete Sampras qui a gagné 14 grands chelems et qui, quand il a gagné le 14e, a dit « Celui qui va dépasser mon record, il n'est certainement pas né, c'est pas prêt d'être battu. » Il y en a trois qui l'ont battu derrière. Donc vous voyez, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui peut se passer, mais c'est vrai que ça démarre très très bien. Et au petit jeu des comparaisons avec Rafael Nadal, il est amusant de constater que Rafael Nadal avait juste 3 mois de moins qu'Alcaraz hier soir quand il a gagné son premier majeur à Roland-Garros en 2005. Mais Alcaraz, on l'a dit, est le plus jeune numéro 1 de l'histoire, à 19 ans et demi. Rafael Nadal a dû attendre ses 22 ans, hein, en 2008, pour être numéro 1 mondial. Donc certes, Nadal a remporté son premier grand chelem plus jeune, mais pour ce qui est de la première place mondiale, avantage à Alcaraz. Net avantage même à Alcaraz.
Et il peut garder, Cédric Pioline, la tête froide. Il est bien constitué à ce niveau-là parce que ça va très très vite. La médiatisation, évidemment, on en parle comme le nouveau phénomène. Même son sponsor sportif a très très vite réagi et a déployé une énorme banderole, une gigantesque bâche sur la Sagrada Familia à Barcelone, qui est en travaux. Donc c'est bien, c'est un peu le cache-misère. Mais enfin, il y a un énorme visage de Carlos Alcaraz sur la Sagrada Familia, qui est le monument absolu à Barcelone. Est-ce que ça peut lui faire perdre la tête, tout cela ?
Il a passé clairement une étape avec cette victoire en Grand Chelem, qui est un retentissement mondial. Normalement, quand on gagne un tournoi du Grand Chelem, on commence, je dirais, à sortir du cadre des fans. C'est un retentissement qui est absolument énorme. Et évidemment, avec tout ce qui accompagne une victoire telle que celle-ci, comme dit précédemment, l'argent, la notoriété, mais surtout, maintenant, il est au sommet de la montagne et c'est l'homme à abattre. Donc évidemment que tout le monde va avoir ce petit surplus de motivation. Je pense qu'il a une marge de progression absolument énorme devant lui. Rappelons, même si Julien l'a fait, ou Benoît, je ne sais plus, sur son parcours extrêmement difficile, il a sauvé une balle de match quand même au passage. Donc ça n'a pas été de tout repos, mais il a quand même réussi à s'imposer. Donc ça démontre qu'il a beaucoup et il l'a montré et démontré qu'il avait de la ressource à ce niveau-là pour tenir les nerfs, que c'était un grand, grand guerrier. Maintenant, le temps de la digestion d'abord va arriver, ensuite de la gestion de ce nouveau statut avec plein d'obligations, même si c'est arrivé, des conférences de presse, on va commencer à lui demander son avis un petit peu surtout sur le décès de Queen Elizabeth par exemple, et d'un coup c'est vrai que ça peut être perturbant, je dirais, dans mentalement, et là il va falloir qu'il prenne du recul, qu'il reste dans sa routine, qu'il soit bien entouré. Son coach aura un rôle hyper important, sa cellule familiale, pour garder l'équilibre et puis surtout garder de bien en vue les objectifs, même si je ne sais pas ce qui s'était fixé en début d'année comme objectif, mais là il les a probablement atteints et voire largement dépassés.
15e mondial, je crois, ce qu'il avait dit, voilà, c'est vrai, en début d'année. Son objectif c'était d'être en top 15, même si à long terme l'objectif affiché était d'être numéro 1 et de gagner un grand chelem, c'est ce qu'il disait. Mais 15e avant la fin de l'année, c'est plus que réussi.
C'est même dépassé.
Donc j'ai envie de vous dire que c'est maintenant que ça devient intéressant, justement, de voir comment il va gérer tout ça. Vous avez donné plein d'exemples du passé, de joueurs qui ont gagné qu'une fois, qui en ont gagné plein. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Le grand risque pour lui, c'est, à mon avis, c'est la blessure. Je pense que s'il n'est pas blessé, le reste va suivre, et quelque part, on a l'impression que mentalement, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite et qui ne sait pas poser de limite. Pas du tout comme ce qu'a déclaré Ruud, son adversaire, en disant, je le reprends, cette deuxième finale de Grand Chelem me fait croire de plus en plus que j'ai la capacité d'en gagner un. Donc vous voyez, il n'est pas mentalement encore dans cette position de se voir gagner, alors que Alcaraz, il ne se pose pas la question, il joue, il gagne. C'est ça qui est merveilleux.
Ce qui est
merveilleux.
Allez-y.
Ce qui est d'autant plus dingue, c'est de se dire que quand il est arrivé à cette US Open, il n'était pas du tout bien dans sa peau. Il avait perdu les tournois importants précédemment en se sentant un petit peu bizarre, en disant que la pression l'empêchait de s'amuser sur le court et tout ça. Et justement, Juan Carlos Ferrero l'a bien expliqué après cette finale, en disant « Moi, mon travail, ça a été de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il s'amuse sur le court. Donc, quand la balle est courte, viens au filet, fais des volées, fais le show, amuse-toi, éclate-toi. » Et ça se voit sur son visage. Et c'est pour ça qu'il électrise les foules. C'est qu'il est tout le temps en train de sourire, il s'éclate, il fait des trucs complètement fous, mais il éructe pas, il n'est pas en train de s'énerver, il est toujours le point, il est toujours positif dans son attitude. Et il l'a dit, je me suis amusé sur cette US Open. C'est terrible pour ses adversaires hein, quand on entend ça. Surtout quand tu sais que le gamin a passé quasiment 24 heures sur les courts pour y arriver et que Juan Carlos Ferrero en rajoute une petite couche après en disant « Attention, mon gamin de 19 ans, là, il est qu'à 60% de son potentiel.
C'est ça qui
est
incroyable.
Je vais pouvoir le faire travailler sur ça, 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 ça. Il a encore plein de marge de progression. » Ce qui est aussi un petit rappel pour son joueur en lui disant « Écoute, c'est bien, t'as gagné ton grand chelem, t'es numéro un mondial, mais on a encore plein de choses à travailler pour que tu deviennes encore plus fort. »
On mesure la marge de progression en 60%. Si vraiment il est à 60%, vous imaginez, ces 40% vont être sublimes. Et en effet, peut-être que son destin sera encore plus auréolé qu'il n'est.